Chers frères et sœurs, il apparaît aujourd'hui que l'Écriture enfonce un peu des portes ouvertes, si l'on peut dire, et qu'on n'a pas besoin vraiment de la révélation pour cela. C'est aujourd'hui le thème notamment des deux voies qui revient à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça veut dire ce thème des deux voies? On peut le résumer ainsi, fais le bien et évite le mal. Fais le bien, tu auras la vie. Si tu fais le mal, tu trouveras la mort. Et dans chacune de nos lectures, nous le retrouvons d'une certaine façon. Dans la première lecture, c'est la sagesse qui parle, une sagesse qui est personnifiée, et elle dit à peu près ceci, « Quittez votre folie et vous vivrez, quittez la voie du mal et vous vivrez. » Et puis dans le chapitre suivant du livre de la sagesse, c'est la sottise, l'étourderie, comme on le traduit dans la traduction liturgique d'aujourd'hui, c'est cette sottise qui sera personnifiée pour bien montrer qu'on a l'option entre deux voies. Dans le psaume, c'est la même clarté. Évite le mal, fais ce qui est bien, formule le psaume de la manière la plus simpliste, si l'on peut dire. Et puis, chez Paul, on aurait aussi cette reprise comme un écho très fidèle de tout cet enseignement de l'Ancien Testament. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Et puis l'Évangile, Jésus aussi va nous orienter vers ces deux voies. Il va nous proposer soit de le suivre, soit de nous en aller à la fin du discours du pain de vie. Voulez-vous, vous aussi, partir ? Proposera-t-il aux disciples, aux apôtres, et eux diront « Non, Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle, à qui irions-nous » Et si nous allons un peu plus loin dans la Bible, nous voyons que chaque grande partie de la Bible est scandée par l'enseignement des deux voies. Dans le Deutéronome, donc dans le Pentateuque, dans la loi de Moïse, « Je mets devant toi la vie et la mort ». Et puis Josué, juste avant que le peuple n'entre dans la terre promise, dites au peuple, choisissez qui vous voulez servir. Tous les psaumes, le psautier commence par le psaume 1, qui présente magnifiquement ses deux voies. Heureux l'homme qui ne s'assied pas au conseil des méchants, malheureux l'impie. C'est toute la littérature de sagesse ensuite qui va reprendre ce thème, et puis les prophètes, notamment Ézéchiel. Alors, pourquoi cette insistance sur ce qui paraît vraiment évident. Fais le bien, évite le mal, je peux le découvrir tout seul. Eh bien, c'est peut-être plus important que ce qu'il n'y paraît. Parce qu'il y a quelque chose de vraiment propre au christianisme et au judaïsme. C'est le poids de la responsabilité personnelle dans notre destin. Ce que je fais a un poids d'éternité. Ce que je fais aujourd'hui me mesure avec l'éternité. Alors on comprend qu'il faille bien user de sa liberté et surtout pas se tromper. Et cela, c'est très unique. Si on peut comparer avec quelques autres options, quelques autres religions, par exemple, pour les spiritualités orientales, si on agit mal, on retardera au pire un petit peu son entrée au nirvana. On aura quelques réincarnations supplémentaires, mais on finira bien par y arriver. Et ça a été aussi la tentation du christianisme de diminuer le poids, l'importance de cette liberté personnelle pour le destin qui va être le nôtre. Par exemple, certains ont considéré qu'on était prédestiné à l'enfer ou au ciel. Et ça, c'était écrit, il n'y avait plus rien à faire. Ou d'autres ont pensé, par exemple, qu'à la fin, il n'y aurait plus d'enfer. L'enfer allait être supprimé, tout, absolument tout, serait sauvé, même les démons, tout finira bien, et pour tout le monde. Alors on voit bien que la responsabilité, dans ces cas-là, diminue. Mais la Bible et l'authentique doctrine de l'Église nous dit « Ce que tu fais a un poids, et un poids éternel ». Quelques actes durant notre vie, 80, 90 ans, 100 ans peut-être, quelques oui et quelques non vont nous valoir une éternité heureuse ou malheureuse. Et cela dépend de moi. Devant moi, j'ai bien donc deux chemins. Chers frères et sœurs, comme c'est important aujourd'hui de nous souvenir de cela dans un monde où nous sommes de plus en plus déresponsabilisés. On cherche toujours un coupable, un responsable, qui ne soit pas moi, qui soit à l'extérieur. Je tombe, je me fracture la jambe ou le bras. Alors c'est bien regrettable, bien évidemment. Et l'explication la plus simple, c'est peut-être « je n'ai pas fait attention ». Mais le réflexe sera de dire « il n'y avait pas de panneau ». C'est le premier enseignement que nous pouvons tirer de ces lectures. Redonner leur poids à nos actes et enseigner cela à nos jeunes, à nos adolescents. Ton bonheur de demain, le succès de ta vie de famille, de ta vocation, dépendra de ces quelques oui et quelques non que tu auras su ou pas su dire à cette période charnière de l'adolescence et de la jeunesse. Il faut enseigner, sans crainte d'aller contre l'Église, que dans la vie, d'une certaine manière, tout se paie et tout s'achète aussi, y compris l'Esprit Saint, disait Séraphim de Sarov. Il y a un théologien protestant, mais qui a dit des choses fort justes, qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer, qui a été tué par les nazis durant la dernière guerre, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle « Le prix de la grâce », et qui bataille contre cette grâce à bon marché, cette grâce à bas prix, qui n'a pas besoin de nos actes finalement. Je vous en cite quelques lignes. « La grâce à bon marché est l'ennemi mortel de notre Église. La grâce à bon marché, c'est la grâce considérée comme une marchandise à liquider, le pardon au rabais, la consolation au rabais, le sacrement au rabais. La grâce servant de magasin intarissable à l'Église, où des mains inconsidérées puisent pour distribuer sans hésitation ni limite. La grâce non tarifée, la grâce qui ne coûte rien. Car on se dit que selon la nature même de la grâce, la facture est d'avance et définitivement réglée. Alors sur la foi de cette facture acquittée, on peut avoir tout gratuitement. La grâce, à bon marché, c'est la justification du péché et non point du pécheur. Puisque la grâce fait tout toute seule, tout n'a qu'à rester comme avant et toutes nos œuvres sont vaines. Toutes nos œuvres sont vaines, le bien ou le mal, le péché ou la grâce. Ce qu'on a fait n'a pas d'importance. Alors vous vous souvenez peut-être de cette émission, ça date de mon enfance, ça remonte un peu, mais c'était Jacques Martin. Hein. Jacques Martin, il y avait l'école des fans, et à la fin tout le monde avait 10. Voilà. Alors quoi qu'on fasse, alors parfois cette espèce de mentalité un peu simpliste fait que quoi qu'on fasse, on sera récompensé. Ça n'est pas notre foi. Un autre point, devant cette si grande responsabilité de l'homme, devant, on peut le dire, ce fardeau de notre liberté, Dieu a pitié. Et il veut nous aider de toutes ses forces à bien utiliser cette liberté, capable de choses si belles et si terribles à la fois. Alors que fait Dieu ? Dieu envoie sa sagesse, et c'est la première lecture. Dans les livres de sagesse, dans l'Ancien Testament, on voit cette sagesse qui est auprès de Dieu et qui regarde le monde depuis le ciel et qui plane comme ça au-dessus du monde et qui se demande où est-ce qu'elle va pouvoir atterrir, si l'on peut dire. Où est-ce qu'elle va pouvoir faire sa demeure ? Et enfin, elle la trouve, cette demeure. Cette demeure, c'est Sion. Et là, elle va s'établir. Elle va, comme dit la première lecture, bâtir sa maison. Elle va sculpter cette colonne. La sagesse s'est donc révélée à Israël. Et qu'est-ce que la sagesse ? C'est justement ce qui m'aide à bien me conduire, à bien choisir la bonne voie. C'est elle qui, comme dit Salomon, prudemment sera mon guide. Et la sagesse, voyant l'enjeu d'un tel choix, va faire plus. Elle va nous appeler, elle va crier. À chaque fois qu'apparaît la sagesse, elle crie, elle appelle, elle réclame des hauteurs de la cité. C'est-à-dire là où on peut la voir, là où on peut l'entendre. Ou alors des portes de la ville. Qu'est-ce que c'était que les portes de la ville à Jérusalem ? C'était le lieu où se rassemblaient tous les hommes, le lieu où aboutissaient tous les chemins, le lieu donc de la mission, le lieu de la prédication. Parce que la sagesse veut rencontrer tous et chacun, veut en toucher le maximum, veut nous sauver tous. Donc le deuxième enseignement qu'on peut tirer après l'importance de cette responsabilité, c'est être des missionnaires de cette sagesse. Parce que la sagesse a besoin de crier, elle a besoin de rompre notre surdité. Quand on a mesuré la chance que nous avions de pouvoir compter avec cette sagesse, avec cette sécurité pour avancer vers le bonheur et vers le salut, alors on ne peut pas faire l'économie de l'annoncer, d'annoncer cette loi, d'annoncer l'évangile qui est un don extraordinaire et non pas un poids. On ne peut pas la garder pour soi parce que trop se perdent. Un dernier point. La sagesse, le chemin du bien et le chemin du mal ne sont pas à égalité. Parce que le chemin du bien, Dieu l'a parcouru. Le chemin du mal, il ne l'a pas parcouru. Jésus avait bien lui aussi ses deux chemins. Et il le montre bien au début de sa vie publique, à la tentation au désert. Et il a fait radicalement ce choix du bien. Puis il a avancé. Il s'est enfoncé dans le bien, dans le don de soi-même, jusqu'à la mort. Et il est devenu lui-même ce chemin. Mais il a fait plus encore. Comme dit l'Évangile aujourd'hui, le chemin s'est fait nourriture. Car en mangeant le corps du Christ, nous mangeons le chemin, si nous pouvons dire. Nous sommes orientés, attirés par le but où lui-même est allé, par le Père. Alors c'est un petit peu comme, si nous mangeons, comme quand nous mangeons l'Eucharistie, si le Seigneur nous équipait d'un GPS qui nous indique le bon chemin à tout moment. Les pères de l'Église nous disaient, quand vous mangez le corps du Christ, vous mangez aussi le Verbe qui vous enseigne intérieurement. C'est ça qui fait que maintenant, le Seigneur fait la route avec nous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Je suis avec lui, je marche avec lui. Alors ce n'est plus vraiment nous, ou plus exactement, plus seulement nous qui avançons, qui choisissons. C'est Jésus qui, en nous, accomplit son retour vers le Père. Et consentir à recevoir le corps et le sang du Seigneur, c'est cela qui nous permet d'avoir cette éternité bienheureuse et pas seulement nos simples actes humains et si limités. Alors, chers frères et sœurs, cette sorte d'angoisse devant notre liberté, devant le fardeau de cette liberté, finalement trop pesante pour nous, cette angoisse disparaît. Un autre a dit oui. Jésus a dit oui. Un autre s'est engagé dans cette voie. Il ne me reste plus qu'à le suivre. Il ne me reste plus qu'à avoir la confiance de l'enfant. Tu nous prendras sur tes ailes et tu nous mèneras vers toi. Demandons à la Vierge Marie d'avoir la grâce de pouvoir consentir à ce que Dieu, à ce que Jésus fasse sa demeure en nous et nous amène avec lui vers le Père.